Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Les défenseurs des droits des femmes se mobilisent aujourd'hui en Europe à l'occasion de la Journée internationale pour le droit à l'avortement. Interruption volontaire de grossesse, et bien moins de 40% des femmes dans le monde y ont accès. L'avortement reste interdit, y compris en cas de viol dans la moitié des pays de la planète. Dans des zones où le plus souvent, et bien la contraception est également limitée, voire carrément inaccessible. L'IVG, un droit remis en cause aussi sous la pression des groupes conservateurs, des convictions morales, religieuses, un cadre légal qui se heurte à un fait. L'avortement, les femmes y ont recours, même si la loi de leur pays l'interdit. Plus de 25 millions d'avortements clandestins sont pratiqués chaque année dans le monde. Et toujours, d'après l'Organisation mondiale de la santé, eh bien les femmes payent un lourd tribut. 47 000 décès, 5 millions de cas de complications recensés chaque année. Avec nous, docteur Christian Jamin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue endocrinologue à Paris et nous retrouverons tout à l'heure en direct de Bamako Adam Diko. Elle est à la tête du mouvement d'action des jeunes de la Fédération internationale pour le planning familial pour la région Afrique, également membre du Conseil sur la planification familiale de la branche malienne du Fonds de l'ONU pour la population. Et en deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec le Sénégal où nous retrouverons le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest de Dakar. Et puis, nous donnerons aussi la parole à Daisy Schmidt, chargée du programme Droits des femmes au sein du mouvement mondial des droits humains de la FIDH. Et puis, bien sûr, comme c'est jeudi, nos auditeurs le savent, en fin de mission, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano, sexologue. Docteur Christian Jamin, un avortement clandestin fait courir un risque sanitaire à la femme enceinte, puisque ces interruptions volontaires de grossesse illégales constituent, il faut le dire aujourd'hui, l'une des principales causes de mortalité maternelle.
Alors, l'avortement peut avoir, j'allais dire, trois types de conséquences. Le premier, c'est l'accident aigu. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une infection qui peut être mortelle, on n'est pas à l'abri d'une perforation de l'utérus. Donc là, on est dans l'aigu et dans le très grave. Et puis, il y a les conséquences à plus long terme, c'est-à-dire ces infections à bas bruit ou ce qu'on appelle des cicatrices à l'intérieur de l'utérus qui s'appellent des synéchies, qui risquent de rendre la femme stérile pour le restant de ses jours. Et le troisième point, c'est les conséquences psychologiques de ces avortements qui sont très variables d'une femme à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une religion à l'autre, et puis surtout de ce que la vie fera après, c'est-à-dire que avoir fait un avortement et de plus jamais être enceinte est quelque chose probablement d'encore plus traumatisant que l'avortement lui-même.
Avec un chiffre brutal, 29 000 femmes meurent des suites d'un avortement non médicalisé chaque année sur le continent africain. Vous parliez, docteur Christian Jamin, de ces conséquences. Il y a aussi toute cette absence de soins post-opératoires. Forcément, c'est grave, on ne peut pas avorter comme cela sans le contrôle d'un personnel qui a été formé pour ça.
Alors, il a été largement démontré que le fait de légaliser l'avortement le rend infiniment moins dangereux parce que ça se passe dans des conditions médicales, surveillées, et dans les pays où l'avortement est autorisé, ses conséquences psychologiques, on en parlera éventuellement plus tard, mais les conséquences médicales deviennent rarissimes parce que on est dans la médecine, la vraie médecine, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, alors que quand c'est interdit, eh bien, ça se passe dans des conditions épouvantables et c'est là qu'il y a les pires accidents.
Avec d'ailleurs des pratiques absolument effarantes sur ce qui peut être fait au corps des femmes. Il y a un constat, pour lutter contre la mortalité maternelle, plus on développe la planification familiale, le contrôle des naissances, plus il y a d'accès à la contraception, plus le nombre d'avortements est limité. D'ailleurs, interdire l'avortement en aucun cas ne fait diminuer le nombre d'avortements.
Alors, ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que l'avortement n'est qu'une partie d'un sujet beaucoup plus global, qui est la liberté de la femme de jouir de son corps en tant que mère, en tant que femme, en tant que plaisir, et j'allais dire que l'avortement n'est que un petit morceau du mépris que l'on a dans beaucoup de pays de la condition de la femme. Et donc il faut parler, bien évidemment, de l'éducation des femmes, il faut parler de la contraception, et ce que vous dites est tout à fait exact, c'est qu'il a été démontré que plus la contraception est développée, plus la mortalité féminine diminue globalement, parce que la contraception, eh bien, empêche ce type de barbarie.
Docteur Christian Jamin, vous restez avec nous. Le temps d'un petit retour en arrière.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes à Paris le 26 novembre 1974 devant les députés français à l'Assemblée nationale. Simone Veil, ministre de la Santé, présente son projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Détresse, angoisse, un des mots très forts dans ce discours historique de Simone Veil, disparu en juin dernier à l'âge de 89 ans. La loi Veil, votée le 17 janvier 1975, alors que c'est en 1967, il y a donc tout juste 50 ans qu'avec la loi Neuwirth, la France avait déjà légalisé la contraception. On va le dire, on va le répéter, on ne peut dissocier l'avortement d'un côté, même si ça n'a rien à voir, la contraception de l'autre, pour faire diminuer cette mortalité maternelle. La promotion de l'avortement, c'est important. La politique de planning familial, pourtant aujourd'hui on a parfois l'impression de voir reculer cette volonté de faire avancer les femmes vers davantage d'autonomie et de choix.
Alors, vous le disiez, il y a deux étapes. Il y a la contraception et l'avortement. C'est-à-dire que, j'allais dire que le second est la conséquence de l'échec du premier. Mais en réalité, il y a une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est l'éducation. Et donc, je pense que, et d'ailleurs, il est archi prouvé que la natalité dans un pays est indépendante de l'utilisation de la contraception. La natalité dans un pays dépend de facteurs sociaux, qui sont l'âge du mariage, qui sont effectivement tout ce qui fait que la femme a la liberté de choisir ce qu'elle fera de son corps et de sa vie. Et c'est ça la première étape, et c'est à mon avis l'étape la plus importante. Et donc après, parmi l'éducation, il y aura la contraception, et l'IVG restera devrait rester l'ultime étape et l'échec, bien que la loi récente en France ait fait disparaître la notion de détresse dans la demande d'interruption de grossesse, alors que Madame Veil avait demandé à ce que avait choisi comme j'allais dire pour faire accepter sa loi la notion de détresse pour que les gens acceptent de faire passer la loi. Mais une fois que la loi est passée, des années plus tard, eh bien, on est allé vers le choix et non plus vers la détresse.
Avec un changement de mentalité aussi profond. Pour revenir à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est simple, plus les filles vont à l'école, plus l'âge d'arrivée du premier bébé, plus cet âge est tardif.
Voilà, et le meilleur marqueur de la natalité dans un pays, c'est l'âge du mariage. C'est-à-dire que plus le mariage est précoce, plus on a un nombre d'enfants important et donc des problèmes, éventuellement des problèmes démographiques et puis des problèmes de vie quotidienne pour chacun et chacune.
Alors, on vient d'évoquer avec vous, docteur Christian Jamin, l'éducation des filles, aussi les risques sanitaires liés aux avortements clandestins. On va tout de suite, si vous le voulez bien, donner la parole à un auditeur. On retrouve Almar. Almar, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Vous êtes en ligne de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Votre témoignage, Almar.
Oui, en fait, j'avais ma petite sœur qui était morte suite d'un avortement qui a été mal fait. L'infirmier qui lui avait fait cet avortement avait dû oublier quelque chose dans son corps, sans plutôt le savoir. Et quelques jours après, ma petite sœur avait mal au ventre. Et on était obligé de l'emmener dans une grande clinique de la ville. Et le médecin avait fait un constat qu'elle avait quelque chose dans son ventre. Et après, on a fallu demander à la fille. Elle était obligée d'avouer auprès du médecin qu'elle avait subi un avortement auprès d'un charlatan dans le quartier.
Almar, votre sœur ne vous avait pas dit qu'elle attendait ce bébé, qu'elle était enceinte? Elle ne vous avait pas parlé de ses intentions?
Non. Elle avait dit cela à personne. Elle avait pris la décision d'aller voir un charlatan et elle avait versé 50 000 francs CFA. Sans pourtant informer un membre de la famille. Elle a fait cela, je ne sais pas si c'était avec le consentement de son mari, mais sinon, jusque-là, nous, on n'avait jamais connu ce mari.
Et Almar, est-ce que cette tragédie dans votre famille vous a fait changer votre regard, justement, sur ce qui peut arriver aux jeunes filles et à ces pratiques d'avortement clandestin?
Ouais, mais ce n'est pas normal. Ce que moi, je suggère, c'est que l'État doit prendre des mesures de sécurité en interdisant ces charlatans qui ont des petites cliniques dans le quartier d'arrêter avec ce genre de pratiques, surtout aux mineurs et aux élèves qui sont encore sur le banc de l'école. Le mieux serait de leur conseiller peut-être à garder les grossesses au lieu de faire ce genre de pratiques.
Docteur Christian Jamin, merci beaucoup, Almar, pour votre témoignage. Docteur Christian Jamin, on entend là quelque chose de barbare, un instrument laissé dans le corps. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé dans ce lieu où l'avortement a été réalisé. En tout cas, des personnes qui disent exercer des pratiques qui n'ont rien de médical et qui mettent directement en danger la vie des filles.
Oui, mais alors, on pourrait longuement discuter. Moi, j'ai entendu le mot charlatan, j'ai entendu... Mais bon, qui fait ça dans un pays où c'est interdit? Forcément, pas le corps médical. Donc, en réalité, il a été largement prouvé, et dans tous les pays du monde, qu'à partir du moment où on pouvait médicaliser l'interruption de grossesse, eh bien, ces charlatans disparaissent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les charlatans sont le fruit des lois. Et non pas, et parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes auront toujours recours à l'avortement dans les situations de détresse. Donc, ce qu'il faut, c'est les aider et pas les pousser dans une clandestinité dangereuse.
Alors, justement, si on regarde des chiffres sur les taux de natalité, ça permet de comprendre beaucoup de choses. 2,5 enfants au niveau international, 1,7 en Europe. 4,7 enfants, près de 5 enfants dans les familles africaines, et beaucoup de disparités. Là aussi, 7,6 pour le Niger, c'est le maximum au niveau international. Au bout de 8 enfants, des femmes choisissent, mais ce n'est pas un choix d'avorter. Les gouvernements doivent sérieusement se poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que l'on perde ces femmes et ces jeunes filles? Parce que l'avortement clandestin, c'est la première cause de mortalité chez les 15-25 ans.
Oui, mais c'est encore pire que ça, si je puis me permettre. C'est-à-dire que, en fait, quand on voit la démographie du monde aujourd'hui, avec cette explosion démographique dans certains pays, la consommation que ça entraîne, la pollution, etc. Là, pour moi, je suis très militant dans cette écologie démographique. C'est-à-dire que la seule façon d'empêcher la planète de se détruire ne sera pas d'empêcher le gaz carbone ou tout ça. C'est pas ça. La seule façon, c'est qu'il y ait des choix par rapport à sa grossesse, par rapport aux enfants. Et on voit très bien que plus l'éducation se développe, eh bien, plus les pays deviennent raisonnables par rapport à tout ça. Comment voulez-vous empêcher des pays de surconsommer tout sur la planète alors qu'ils ont des populations qui meurent de faim? Demain, si on interdit les pesticides, on diminue 30% la production de blé, mais les gens ne se laisseront pas mourir de faim. Donc, on va tout droit vers une guerre mondiale. Donc, si on veut lutter contre la pollution, si on veut lutter contre cette future guerre mondiale, si on veut lutter contre tous ces problèmes d'immigration, la seule façon, c'est l'éducation des femmes. Et donc, que ça soit pris au niveau des gouvernements. Et donc, c'est la seule façon de s'en sortir sur la planète.
Oui, mais précisément, il y a des gestes politiques qui vont d'une certaine façon à l'encontre. Quand l'une des premières décisions de Donald Trump, quand il arrive au pouvoir à Washington, c'est de limiter le financement américain à des organisations non gouvernementales étrangères qui facilitent peut-être l'avortement, mais aussi le planning familial. On peut dire que c'est un mauvais signe qui est donné. Le Mali, par exemple, touchait 600 000 dollars de manque pour la politique contraceptive et d'aide aux femmes et à l'éducation des femmes.
Oui, mais bon, vous parliez des États-Unis, il y a Bill Gates aussi. Bill Gates qui a fait des fondations pour l'éducation des femmes. Donc, il y a quand même des gens conscients de ce que je suis en train de vous dire.
Et des réunions justement qui tentent d'avancer sur ce genre de questions. Est-ce qu'il y a justement une réflexion commune de la part des gynécologues obstétriciens avec leurs confrères du Sud pour essayer d'avancer sur cette promotion-là et d'agir au niveau des politiques?
Alors, en fait, vous l'avez dit. Le problème, il est politique, parce que bon,
il est aussi purement législatif.
Alors il y a beaucoup d'organismes, d'ONG qui vont pour aider les femmes, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Ce qui est important, encore une fois, c'est que les femmes soient suffisamment éduquées pour pouvoir choisir leur vie. Et surtout que les hommes le respectent. Et donc, c'est principalement au niveau du machisme international qu'il faudrait agir.
Et maintenant, justement, on aborde ces femmes concrètement qui vont subir un avortement clandestin, qui, pour leur chance, s'en sortent bien. Le conseil qu'on a à leur donner, c'est aller voir un gynécologue, aller voir un obstétricien et penser à la contraception. C'est ça la seule chose à faire après un avortement.
Mais il y a en France actuellement des gens qui viennent pour faire une interruption de grossesse parce qu'ils sont dans des pays où ça n'est pas médicalisé. Donc effectivement, là, quand on a de l'argent, c'est possible. On peut venir à Paris ou dans d'autres pays. Mais quand on est pauvre, eh bien, on est obligé de faire appel à ces charlatans, comme le disait l'auditeur tout à l'heure, avec tous les risques que ça comporte.
Avec les risques physiques, vous l'avez dit, les risques psychologiques énormes, y compris quand on retourne dans la famille et qu'on se retrouve dans son corps blessé, meurtri. Quel regard ont les autres, justement, sur ce corps après un avortement clandestin?
Mais ça, justement, le regard de la famille, c'est le regard de la société, c'est le regard des dirigeants. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas changé le regard des hommes sur la liberté de la femme, eh bien, on ne progressera pas.
Merci beaucoup, docteur Christian Jamin. Vous restez avec nous, hein. Priorité santé continue. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, après les informations, toujours pour parler des conséquences des avortements clandestins en cette journée pour la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, avec un certain nombre de rassemblements, notamment dans les capitales européennes, et même une pétition qui sera remise dans le courant de la journée au Parlement de Bruxelles, mobilisation notamment donc dans la capitale de la Belgique. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et nous sommes toujours en compagnie de Dr Christian Jamin, gynécologue endocrinologue à Paris, à l'occasion de la journée mondiale de dépénalisation de l'avortement. On a évoqué pendant la première partie de l'émission l'impact des avortements clandestins sur la mortalité maternelle, également la promotion du planning familial pour limiter le nombre d'avortements. Et on va maintenant rejoindre le Sénégal. Nous sommes en ligne avec le docteur Abdoulaye Diop. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique NES de Dakar. On vient de parler tout à l'heure des risques sanitaires pour ces femmes qui avortent dans la clandestinité. Est-ce qu'il vous arrive justement de traiter de complications de ces IVG à risque et de quel ordre ces complications sont-elles?
Oui, exactement. Comme l'ont dit, comme l'a dit mon collègue, nous, dans notre pays, l'avortement est illégal, donc c'est interdit. Mais le gouvernement, le ministère de la Santé, a mis en place un programme qui a restitué les soins après avortement. Donc régulièrement, nous recevons des patientes qui sont victimes d'un avortement et ces soins après avortement sont dispensés aussi bien pour les femmes qui ont fait un avortement provoqué malheureusement, mais aussi aux femmes qui ont subi un avortement spontané, n'est-ce pas? Les soins après avortement, c'est l'ensemble des soins que l'on dispense à la femme pour justement traiter cet avortement, éviter les complications hémorragiques, infectieuses, même psychologiques suite à cet avortement, et lui pour le proposer aussi évidemment un moyen de contraception, parce que comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, derrière tout avortement ou derrière toute tentative d'avortement provoqué ou clandestin, il y a un désir de contraception qui n'a pas été honoré. Donc c'est dans ce sens-là que nous recevons des femmes et pour le prodiguer des soins après avortement.
Alors vous disiez l'avortement est illégal au Sénégal, mais dans certains cas, avec certaines restrictions, il existe tout de même un droit à un avortement thérapeutique. Est-ce que dans les faits, les femmes y ont véritablement accès?
Oui, dans les textes, l'avortement est autorisé au Sénégal seul si et seulement si la poursuite de la grossesse entraîne un risque vital pour la mère. Mais pour faire cet avortement, il faudrait l'avis de deux gynécologues, il faudrait l'avis d'un magistrat, il faudrait l'avis de médecin légiste. Et le temps de réunir tout ce beau monde, soit la grossesse est suffisamment avancée, ou bien même la patiente est avoir recours à une tentative plus, soit illégale, totalement illégale, mais plus rapide. Donc ce sont des lourdeurs législatives, administratives liées à ces conditions d'avortement légal qui font qu'on a quand même parfois des difficultés à recevoir ces patients suffisamment tôt.
Alors est-ce qu'il existe des chiffres des décès maternels au Sénégal provoqués par justement le recours à des pratiques clandestines pour mettre un terme à la grossesse?
Oui, il existe des chiffres, mais ces chiffres sont plus ou moins difficiles à obtenir puisque justement ces avortements sont illégaux, donc c'est pas sur tous les trois. Tous les doigts que les gens vont aller crier qu'ils ont fait un avortement illégal. Certaines études faites par exemple le CEFRAP, qui est l'organe chargé de s'occuper de la formation en santé de la reproduction, ont fait des études qui ont montré que non seulement il y avait un gros taux de mortalité lié à ces avortements clandestins, même si on peut avoir difficilement des chiffres, mais aussi que le fait de proposer cet avortement, que le fait de proposer une contraception limite fortement le taux de d'avortement.
Alors,
cette réalité dont on ne parle pas, ce sont les infanticides. Parce que lorsque la femme n'a pas recours à l'avortement durant la grossesse, après la grossesse, il y a un bon nombre de femmes qui ont recours à cet infanticide et qui finalement se retrouvent derrière les barreaux. Or, cet infanticide aussi sont des conséquences à long terme d'une tentative, d'un désir de contraception qui n'a pas été honoré.
Avec des conséquences psychologiques absolument épouvantables pour les mères qui ont tué leur enfant parce qu'elles étaient dans l'incapacité de l'accueillir.
Exactement, exactement.
Docteur Jamin.
Oui, on a bien affaire à une chaîne, à une chaîne qui commence éducation, contraception, avortement, infanticide. En fait, on a là le déroulement de quelque chose d'inéluctable. Et moi, je défends bien évidemment l'avortement, mais je pense que si on veut vraiment limiter l'avortement, il faut agir en amont. Et donc, par exemple, en France, actuellement, on voit la contraception reculer. On voit la contraception reculer parce que on est dans des systèmes où on nous explique que c'est pas naturel. Il y a eu le scandale avec un non-lieu, d'ailleurs, récemment, sur les pilules de troisième génération. Donc tout ça participe au rejet de la contraception. Alors, le rejet de la contraception, il est soit brutal dans les pays où c'est interdit, mais il est aussi souterrain, dans, y compris dans nos propres sociétés. Il faut bien le dire, c'est-à-dire que le combat doit se mener, bien sûr, sur la liberté des femmes d'avorter, mais bien sûr aussi sur la liberté de choisir une contraception et surtout d'en faire une promotion ou au moins en dire la vérité. Parce que on a des contre-vérités aujourd'hui à longueur de journée sur Internet sur la contraception.
Par exemple, tout un courant moral qui veut assimiler contraception et avortement alors que l'avortement n'est que la conséquence d'un échec de la contraception.
Absolument. Alors, il faut dire ce qui est, c'est que la contraception, ça veut dire contre la conception, et l'avortement, c'est pour faire partir une grossesse existante. Donc, la contraception n'est pas un avortement.
Avec tout ce que l'on sait du processus d'évolution du corps de la femme pendant la grossesse, forcément, une contraception qui est beaucoup moins difficile à supporter pour le corps que l'est n'importe quel avortement.
Mais y compris dans les pays développés, il est beaucoup plus dangereux d'être enceinte que de prendre une contraception. Donc, c'est des choses qu'il faut dire. Et puis, encore une fois, les inepties fleurissent sur Internet. La contraception ne rend pas stérile. C'est faux. La contraception ne donne que très rarement d'accidents. En fait, beaucoup moins que les grossesses et encore beaucoup moins, bien évidemment, que les avortements. Donc, il faut... La liberté est aussi dangereuse quand elle est mal manipulée, ou plutôt moins quand elle est manipulée. Et actuellement, on assiste à une manipulation sur la contraception, y compris dans un pays comme la France.
Alors, docteur Abdoulaye Diop, on retourne au Sénégal. Là, on l'a souligné en première partie, moins les femmes ont accès à la contraception, plus le nombre d'avortements est important. Justement, en la matière, le Sénégal s'est fixé des objectifs pour que 45% des femmes accèdent à un mode de contraception en 2020. L'an passé, c'était presque 20%. Comment passer de 20% à 45% en l'espace de si peu de temps?
Exactement. Le défi que s'est lancé le gouvernement de la santé, le Sénégal, c'est d'augmenter ce taux de couverture contraceptive. Ce qui n'est pas évident, comme l'a dit mon confrère tout de suite, on a justement beaucoup de problèmes à gérer ces rumeurs, comme quoi la contraception en stérile, la contraception dans le cancer, etc., la contraception sur l'avortement, c'est vraiment très 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 compliqué sur les réseaux sociaux, que ce soit des charlatans, que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances médicales ou qui en ont des connaissances assez approximatives, donc il est déjà très 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 difficile. Le deuxième problème, c'est le personnel médical aussi, malheureusement, ne joue pas toujours le jeu, parce que il faut avoir l'honnêteté de dire à une femme qui vient prendre une contraception qu'il y a des risques d'effets secondaires et que ces effets secondaires sont normaux. N'importe quel médicament au monde que l'on prend, on peut avoir des effets secondaires. Et pour la contraception, on peut avoir des saignements, des scouting de temps en temps, on peut avoir mal à la tête, on peut ne pas avoir ses règles pour certains types de contraception, on peut avoir une augmentation des pertes blanches, etc. Mais il faudrait le dire dans le counseling, dans la consultation pour dispenser la contraception. Parce que ne pas le dire et que la femme se retrouve finalement à avoir des effets secondaires, c'est la pousser un peu à laisser tomber cette contraception et aller voir quelque chose d'autre. Du point de vue organisationnel, l'accès à la contraception devient de plus en plus facile avec la subvention, les subventions liées au coût de la contraception. Vous l'avez dit en début d'émission, à l'arrivée au pouvoir du président Trump, il y a eu une diminution des subventions des ONG qui luttaient un peu contre la mortalité par le biais de la contraception, et donc l'accès à certains contraceptifs était plus facile. Ils ont maintenant ces organisations, ont des difficultés peut-être à faire autant qu'elles faisaient pour que certains produits contraceptifs soient disponibles et à moins de coûts dans certains pays. Le gouvernement fait des efforts. Il y a de plus en plus de campagnes publicitaires pour inciter un peu les gens à la contraception en axant le discours sur éviter les grossesses rapprochées et d'espacer un peu les naissances. Donc il y a tout un système qui est mis en place pour que la contraception soit acceptée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, derrière chaque contraception loupée, il y a un risque de grossesse. Et ce risque de grossesse va entraîner un risque d'avortement. Avortement qui sera obligatoirement clandestin, puisque c'est interdit dans notre pays. Et en plus, à long terme, il y a aussi un risque d'infanticide et même un risque qui va se poser dans l'éducation des enfants. Donc c'est vraiment toute une chaîne qu'il faut mettre en place et qu'il faut surveiller avec au départ, comme on l'a dit mon confrère, l'éducation.
L'éducation. Merci docteur Abdoulaye Diop. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar.
Priorité santé. sur RFI.
Les choses qui évoluent au Sénégal, docteur Christian Jamin. Nous allons avoir tout de suite un appel de Kinshasa. C'est Joseph qui est en ligne. Bonjour Joseph.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui madame, je voulais intervenir parce que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui a acté sur mon mémoire de fin d'études. Je suis médecin au centre médical Amitié. Donc, les avortements clandestins en RDC, ça devient une pratique courante. En telle scène que ça expose la vie de jeunes filles et des adolescentes à danger. Mais je voulais juste poser deux questions à monsieur le gynécologue qui est sur le plateau, si vous allez me permettre.
Oui, bien sûr, on vous écoute, Joseph.
Oui, la première question, je voulais savoir, en France, parce que nous savons que les complications des avortements dépendent de milliers où l'acte est réalisé. Par exemple, en France, quelle est la complication la plus fréquente? La deuxième question, je ne sais pas si je peux poser au même moment et puis il me répond une fois.
Allez-y, allez-y.
Oui, la deuxième question, je sais que l'âge de la viabilité dépend d'un pays à un autre. Est-ce que la mort foetale unitaire constitue l'une des complications des avortements clandestins?
Docteur Jamin, peut-être alors, une précision sur cette dernière question de la part de Joseph?
Est-ce que la mort foetale est une conséquence des avortements antérieurs? La réponse est probablement non. C'est pas une conséquence classique. La vraie conséquence, c'est la difficulté ultérieure à être enceinte. Ça, c'est les conséquences long terme. Et alors, vous demandiez quels sont les effets secondaires des avortements en France. Alors, en France, on utilise deux types d'avortements. Ce qu'on appelle l'avortement médical, où la femme prend des comprimés qui arrêtent la grossesse, puis des comprimés qui évacuent la grossesse. Ça se passe à domicile, ça ne se passe pas à l'hôpital. Et là, les conséquences à court terme sont que parfois il y a des saignements un peu abondants, mais il y a quasiment pas de conséquences à long terme de ce type de pratique. Le deuxième mode d'avortement, c'est l'avortement qu'on appelle chirurgical, où cette fois on va enlever la grossesse qui est à l'intérieur de l'utérus. Et là, il peut y avoir, mais ça reste très très exceptionnel, ce qu'on appelle des synéchies, c'est-à-dire que du fait de la cicatrice liée au fait d'enlever le bébé, eh bien, ça peut faire que les parois se collent et qu'on ait du mal à être enceinte après.
Docteur Jamin, c'est le terme de la grossesse qui va déterminer le recours à l'un ou l'autre
non,
de ces avortements,
non,
pas
non,
forcément.
C'est le choix de la femme.
C'est le choix de la femme.
C'est le choix de la femme. Alors, bien sûr que les avortements médicaux se passent plus souvent en ville, en début de grossesse, et dès qu'on a dépassé une certaine date, eh bien, ça se passe plutôt en clinique, et là, on est dans l'avortement chirurgical. Mais avant tout, c'est le choix de la femme.
Joseph, en ligne de Kinshasa, merci beaucoup pour votre appel. On parlait en début d'émission de la mobilisation en Europe, hein, pétition remise au Parlement de Bruxelles avec un fait assez méconnu. Un État membre de l'Union européenne interdit complètement l'avortement, y compris pour les grossesses issues de viol. Cet État, c'est l'île de Malte, île de la Méditerranée, ni avortement, ni d'ailleurs pilule du lendemain sur place. Alors, dans le cadre de cette mobilisation, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a lancé un appel européen pour le droit à l'avortement. Bonjour, Daisy Schmitt.
Oui, bonjour.
Vous êtes chargée de programme droits des femmes au sein du mouvement mondial de la FIDH. Quel état des lieux pour l'avortement aujourd'hui en Europe?
L'avortement aujourd'hui en Europe est malheureusement menacé. Les féministes qui se sont battues pour le droit à l'avortement dans les années 70 ne pensaient peut-être pas qu'on en serait là. On voit par exemple qu'en 2014, le droit à l'avortement a été remis en cause en Espagne. Il a été aussi en 2016 en Pologne. Voilà, on voit que les choses avancent. Par exemple, il y a deux jours, l'Irlande a annoncé qu'un référendum allait être tenu sur la question en 2018. Donc, quelques éléments d'espoir, mais voilà, les mouvements religieux, rétrogrades, sont à l'œuvre et malheureusement, ce droit n'est pas acquis et la menace reste constante.
Et justement, pour endiguer cette montée des mouvements conservateurs. On a vu des fortes mobilisations féminines, en particulier on garde les images de ces cortèges, notamment à Varsovie, dans les rues de la capitale polonaise, qui finalement ont fait reculer le gouvernement conservateur.
Oui, voilà, nous le plaidoyer qu'on porte vraiment à la FIDH et notamment aussi au sein du collectif européen Avortement les femmes décident, c'est vraiment en faveur de la reconnaissance de l'avortement, de l'accès à l'avortement comme un droit pour légaliser cet accès afin à la fois de prévenir tous ces drames qui sont évitables, c'est-à-dire les décès, les infanticides, les complications médicales dont vous avez parlé tout à l'heure, mais aussi permettre aux femmes de choisir leur vie, de vivre leur sexualité librement et de décider ou non d'avoir un enfant. Et cette légalisation, elle passe aussi par l'élimination de tout un tas d'obstacles juridiques, procéduraux, que les États mettent en place pour freiner ou empêcher les femmes d'accéder en pratique à l'avortement, que ce soit par exemple les certificats médicaux qui sont exigés en cas de viol, l'avis de deux ou trois médecins dont vous avez parlé tout à l'heure au Sénégal, alors que dans certaines régions, vous avez certaines personnes qui, tout au long de leur vie, n'ont même pas la chance de voir un seul médecin. La clause de conscience doit aussi être éliminée. Cette clause, par exemple, est en train de remettre en cause l'accès des femmes à l'avortement en Italie. Elle est aussi très utilisée en Pologne, où vous avez des hôpitaux entiers et même des régions entières qui font usage de cette clause de conscience et où les femmes n'ont pas du tout accès à l'avortement. Ou par exemple encore le délai de réflexion qui a été supprimé récemment en France.
Daisy Schmidt, il y a quand même des pays où les choses bougent, les pays prohibitionnistes qui décident de changer leurs lois. C'est ce qu'on a vu notamment avec le Chili.
Oui, voilà, au Chili, heureusement, la mobilisation des femmes a réussi à avoir raison des mouvements religieux et conservateurs qui voulaient empêcher les femmes d'accéder dans la loi à l'avortement. Maintenant, il va y avoir des élections fin novembre, et donc on va voir si la nouvelle équipe gouvernementale est prête à mettre en œuvre cette loi. C'est pas gagné, mais en tout cas la FIDH est impliquée dans ce plaidoyer. Elle a mené une enquête en janvier 2017 sur cette question et on a un rapport qui sort à la fin de l'année avec des revendications précises pour cette nouvelle équipe gouvernementale.
Merci beaucoup Daisy Schmidt. L'action aussi de la FIDH, hein, il faut le souligner, qui alerte en particulier sur le droit à l'avortement des femmes victimes de violences sexuelles. Daisy Schmidt, chargée du programme Droit des femmes à la FIDH. On vous remercie aussi, hein, docteur Christian Jamin, d'avoir été avec nous pendant cette émission de Priorité Santé. À très bientôt sur RFI.
Eh bien, merci de m'avoir invité. Alors, j'ai juste un tout petit mot à rajouter. C'est que tout à l'heure, il y a eu une ambiguïté dans les paroles. La contraception d'urgence n'est pas un avortement, c'est une contraception. Et ça, il faut pas que ça... Parce que c'est très important de le comprendre. Alors, je tenais à le dire avant de partir, parce qu'il faut pas qu'il y ait une ambiguïté dans la tête des femmes.
Il n'y a pas de problème, tout est clair. Docteur Christian Jamin, et tout de suite, c'est votre chronique du jeudi. Bonjour docteur Solano.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médecin sexologue aujourd'hui, vous nous parlez des fantasmes, plus particulièrement comment ils se forment. Alors comment et quand ces fantasmes commencent-ils à se mettre en place ?
Les fantasmes sexuels, déjà, ça n'existe pas dans l'enfance. Quand par exemple un enfant touche son sexe et que cela lui procure du plaisir, eh bien ce n'est pas associé à des pensées sexuelles. Les pensées et les fantasmes sexuels, ça commence à se manifester au début de la puberté, je dirais aux alentours de 11 ans, mais ça peut être un tout petit peu avant, ou 12, 13, 14 ans, ça dépend. Et à cette période de la vie, c'est comme si une partie du cerveau se mettait en route et cherchait dans le monde extérieur des sources d'excitation sexuelle pour fabriquer des fantasmes et les mettre en mémoire.
Alors, en pratique, hein, comment est-ce que cela se manifeste ?
Eh bien, comme les hormones sexuelles, elles commencent à agir, elles vont modifier le corps, ça on sait, mais elles modifient aussi le fonctionnement du cerveau. Et donc, à partir de ce moment-là, où le cerveau imprégné d'hormones sexuelles, un garçon ou une fille commence à ressentir des émotions sexuelles lors de certains événements. Je vais prendre un exemple, un jeune homme qui est à la piscine et sans le vouloir, il va surprendre une jeune fille nue. Cet événement, ça va être excitant pour lui, c'est normal, et il va se former une empreinte dans son cerveau, c'est-à-dire qu'un souvenir émotionnellement fort va s'installer dans sa tête. Et le résultat, c'est que par la suite, pendant toute sa vie, il se peut qu'il ait le fantasme de surprendre une femme nue. Un autre exemple, un de mes patients se rappelle avoir vu à la télévision une danse comme un French cancan. Vous savez, où les femmes ont des robes à froufrou avec plein de dentelles et elles lèvent la jambe très haut. Eh bien, il m'a dit, cette image, elle est restée gravée dans mon cerveau. Et depuis que j'ai vu ça, je pense que je suis presque fétichiste des jambes. C'est la partie du corps d'une femme que je trouve la plus excitante.
Donc on peut aussi chercher la source de nos fantasmes dans nos souvenirs.
Oui, exactement. C'est dans nos souvenirs qu'est la source de nos fantasmes. Et c'est toujours des souvenirs qui sont forts en émotion. Je vais prendre un autre exemple tout simple. Un tout jeune homme qui a une petite copine pour la première fois, si la première fois il touche ses seins, il ressent une très forte émotion, eh bien, il y a des chances que toute sa vie, toucher un sein, pour lui, ça sera quelque chose de merveilleusement excitant.
Alors, ça veut dire que nos fantasmes s'installent dans notre cerveau sans forcément qu'on les choisisse.
Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas responsable de nos fantasmes. Ils vont se former en fonction de nos expériences de vie. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas les trouver ridicules, bêtes ou honteux. C'est un peu comme notre couleur des yeux, notre taille. Ben, ils sont ce qu'ils sont et on doit faire avec.
Des fois, ces fantasmes peuvent être violents. Est-ce que c'est pas un petit peu gênant?
Eh bien, normalement, non, parce qu'un fantasme, ça fait partie du monde imaginaire. C'est pas spécialement quelque chose qu'on a forcément envie de réaliser. Leur rôle, c'est plutôt de nous permettre de stimuler une excitation sexuelle par le mental.
Alors, pas du tout une stimulation, hein, puisque certaines personnes parlent de fantasmes à partir d'expériences pas du tout excitante, plutôt traumatisante, par exemple, une agression sexuelle. Est-ce que c'est normal?
Oui, c'est normal et on ne le sait pas assez, c'est assez fréquent. En fait, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a fabriqué un fantasme à partir d'une agression, elle a envie de se faire agresser, pas du tout. C'est simplement qu'une agression, ça produit une émotion extrêmement forte, même si cette émotion est négative. Et donc, le cerveau met en mémoire les événements associés aux fortes émotions. Donc, c'est relativement fréquent d'avoir des fantasmes liés aussi à des souvenirs sexuels négatifs. Il faut pas s'en vouloir, se dire qu'on est anormal ou bizarre. Ça veut pas dire du tout qu'on a envie de revivre son agression.
Alors, tout à l'heure, hein, vous nous avez parlé de ces gens fantasme sur les jambes avec le French cancan. Justement, au sujet des images pornographiques, hein, même si ce n'est pas lié, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Eh bien, justement, vous savez que c'est interdit en France de mettre de la pornographie à disposition des mineurs. Et une des raisons, c'est dans ce que j'explique, c'est que si une personne très jeune regarde de la pornographie, ça provoque de très fortes émotions et des fantasmes vont se mettre en place dans le cerveau et ce seront des fantasmes pornographiques au lieu d'être des fantasmes à partir d'expériences de la vie réelle. Et c'est vraiment dommage de laisser la pornographie faire intrusion dans l'imaginaire d'un enfant et peut-être d'y rester toute sa vie parce que en plus ça va lui donner une idée terrible de ce qu'est la sexualité.
Merci docteur Solano. Bien sûr, cette chronique, on la retrouve sur notre site internet. Nous avons en ligne un auditeur qui souhaite poser une question au docteur Solano. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Toulouse, hein, de l'ouest de la France. On vous écoute tout de suite pour votre question.
Ok, ma question est de savoir, est-ce que c'est possible qu'une femme vierge puisse introduire l'intégralité de son doigt dans son vagin?
Votre question c'est, est-ce qu'après ce geste, elle reste vierge?
Oui.
Alors, il y a une chose, d'abord avant de vous répondre directement, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est la virginité et l'hymen intact. C'est-à-dire qu'une femme qui va introduire son doigt dans son vagin, même si elle déchire son hymen, elle est toujours vierge. Parce que être vierge, c'est ne pas avoir eu de rapport sexuel, de pénétration. Donc, elle est vierge quand même. Il y a énormément de petites filles qui ont 3-4 ans, qui introduisent un doigt dans leur vagin, pas pour des raisons d'excitation sexuelle, mais parce qu'elles explorent leur corps, elles vont mettre un doigt dans leur bouche, dans leur oreille, dans leur nez et dans leur vagin aussi. Donc, il y a beaucoup de petites filles qui peuvent déchirer même l'hymen et après ne plus du tout s'en souvenir parce qu'on n'a pas de souvenir quand on est aussi petit que ça, d'abord. Ensuite, il faut savoir aussi que l'hymen, c'est une petite peau fine qui recouvre l'entrée du vagin, mais elle est percée parce que c'est évidemment important parce que c'est pour que puisse s'évacuer le sang des règles. Donc il y a un orifice dans l'hymen et chez beaucoup de femmes, il est gros comme un doigt à peu près, voire un petit peu plus. Donc il y a beaucoup de femmes qui peuvent introduire un doigt dans leur vagin et ne pas du tout déchirer leur hymen. De même que certaines femmes vont mettre un tampon quand elles ont leurs règles, ça déchire pas forcément leur hymen. Et puis il y en a d'autres qui ont un hymen qui a une ouverture assez petite. Si elles mettent un tampon, ça leur fait mal, comme lors d'un premier rapport sexuel, ça peut faire mal. Ça peut même saigner, mais elles ne le voient pas parce qu'elles ont leurs règles. Et elles vont un peu déchirer leur hymen en mettant un tampon. Et on ne peut pas dire que cette jeune fille n'est plus vierge. puisqu'elle a jamais eu de rapport sexuel, elle a même jamais eu de petit copain, elle a juste mis un tampon une fois parce que à l'école on lui disait faut mettre des tampons pour aller à la piscine par exemple. Bon bah elle est toujours aussi vierge qu'avant d'avoir mis un tampon. Donc voyez un petit peu la différence. Et donc du coup, ce que je vais ajouter qui est peut-être très important, c'est que quand une jeune fille a son premier rapport sexuel, elle peut très bien ne pas saigner. C'est-à-dire, si son hymen est assez élastique, il va pas saigner ni se déchirer. Si son hymen est naturellement assez large au niveau de l'ouverture, elle va pas saigner. Ou si quand elle était petite fille, elle a mis un doigt dans son vagin et qu'elle a déchiré son hymen, bah, il va pas saigner lors de la première fois. Donc, c'est pas parce qu'une femme ne saigne pas et n'a pas mal qu'elle n'est pas vierge. Ça, c'est très important. D'autre part, il y a exactement le contraire. Il y a des femmes qui vont avoir mal et saigner au premier rapport sexuel. Et quelquefois, l'hymen n'est pas entièrement déchiré et elles vont avoir un mois après ou un an après un deuxième rapport sexuel, elles vont saigner à nouveau. Pourtant, elles sont pas vierges, elles ont déjà eu un rapport sexuel. Donc, vous voyez, c'est pas l'hymen intact et la virginité, c'est pas la même chose. Est-ce que je suis claire pour vous ?
Oui, merci.
Merci beaucoup, Abdoulaye. Vous étiez en ligne de Toulouse. Merci, docteur Solano. Et demain, dans Priorité Santé, nous parlerons du cœur, le numéro de l'émission 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.